France Culture.
À voix nue, Sylvie Gasteau.
Jacques Lifshin, metteur en songe.
Bonjour Jacques Lifshin.
Bonjour madame.
Deuxième entretien. Regardez la vie en farce. La rue, l'extérieur, c'était ton terrain de jeu dans l'enfance. Et cela l'est resté jusqu'à aujourd'hui.
Exactement.
C'est aussi celui du théâtre qui, il y a 2500 ans, se produisait à ciel ouvert lors des fêtes agricoles, des comices. Et même si le théâtre de l'Unité s'est produit à l'intérieur, notamment avec le Don Juan, et que tu t'y rends souvent en tant que spectateur, d'emblée tu as des réticences. Tu détestes que l'on commence au théâtre par une déchirure, celle du ticket. Tu ne supportes pas cet acte inamical.
Eh oui.
Alors la rue.
Ben oui, quand j'étais petit, j'aimais jouer dans la rue et en fait, j'ai jamais cessé de le faire. Alors il y a beaucoup de choses à raconter sur la rue. En fait, en commençant le théâtre, quand je jouais cet avare, je me disais c'est pas possible à quel point les gens que je vois dans la rue, que je vois à la boucherie, à la poste, ils viennent pas dans le théâtre. Que le théâtre, on dirait que la porte, elle est verrouillée pour plein de catégories de la population. Et ça, j'en souffre énormément et je décide donc de faire des parades pour attirer les gens à l'intérieur du théâtre. Tu sais, la parade foraine, hein, alors on commence à faire des parades. Et un jour, il arrive la chose suivante. Tout le monde me dit, la parade est formidable, le spectacle l'est moins. Oh là là, là là, ça m'avait sidéré. La parade, on l'a préparée en 2 jours, 3 jours. Et le spectacle, je l'avais travaillé, je l'avais écrit, je l'avais, etc. On avait répété longtemps. Et voilà qu'un jour, on se retrouve avec une parade qui s'appelait la Deux Chevaux Théâtre, qui devait attirer les gens vers un autre spectacle, qui était une écriture que j'avais faite moi, sur la faillite de l'usine de mon père à Issy-les-Moulineaux. Et je vois que la Deux Chevaux Théâtre plaît beaucoup plus que le spectacle. Et peu à peu, il y a dans la diffusion des spectacles, il y a des acheteurs qui disent « On voudrait voir la Deux Chevaux Théâtre dans notre fête de village, dans notre fête de ville, etc. » Et nous voilà avec un spectacle qu'on n'avait jamais voulu comme un spectacle. Le principe était simple, c'était... Parce qu'on souffrait énormément à l'intérieur de nos pièces. Quand on jouait nos pièces, il n'y avait jamais personne. Très peu de monde, tu vois. On se retrouvait dans des salles de 800 places avec 50 personnes, 100 personnes. Alors je rêvais d'un théâtre plein. Alors on s'est réunis avec mes deux comparses, et on a fait plein d'essais et à la fin, on a convenu qu'il fallait jouer à l'intérieur d'une Deux Chevaux, voiture populaire par excellence, qu'on installerait le théâtre dans la Deux Chevaux et qu'il n'y aurait que 2 spectateurs, voilà. Et qu'à l'extérieur, on ferait tout le décorum du théâtre bourgeois avec garde républicain et pompiers de service et ouvreuse antipathique. Voilà.
Cette Deux Chevaux, elle était particulière puisque elle était en peinture faux marbre.
Oui, ben on l'a fabriquée. C'est un immense malentendu en fait. Je voulais attirer les gens à l'intérieur du théâtre et finalement à l'extérieur ça marchait mieux. Voilà. C'est comme ça qu'elle est allée au théâtre. Au début, on voulait faire des marionnettes avec, on voulait la renverser, on voulait faire un truc. Parce que mon père fabriquait des écrous pour les Deux Chevaux. C'est ça l'idée de faire la parade pour attirer les gens, voir la fin d'une petite usine, un sous-traitant de Citroën, voilà. Et Claude Accard a installé un petit théâtre à l'italienne à l'intérieur, avec 2 sièges qu'on disait de la Comédie Française. Il a peint la voiture en marbre, il y avait des rideaux rouges, etc. Et franchement, on savait pas que ça allait devenir qu'on allait jouer ce spectacle 20 ans. On a fait une première sur l'esplanade de Beaubourg, devant le centre Pompidou. Voilà, on avait invité un peu de journalistes, etc. Mais vraiment, ce jour-là, tu pouvais pas croire que tu étais en train d'inventer une nouvelle forme de théâtre. C'est 10 ans plus tard que les gens me disent, Jacques, sans toi, il y aurait pas de théâtre de rue. Il faut pas exagérer. Mais si, parce que tu as ouvert une piste. Tu as ouvert une piste nouvelle et que nous, on a suivi derrière. On a dit, tiens, on peut faire du théâtre dans la rue. Ça fait des cercles de spectateurs, etc., etc., voilà.
Alors ce spectacle, il commençait par Hervé, oui, de Lafont, qui disait « Circuler, il n'y a rien à voir ».
Ben exactement, c'était comme ça. Parce qu'en France, quand tu donnes des ordres, que tu dis « approchez, approchez », parce que les spectacles forains ont dit « approchez, messieurs dames, approchez, vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez voir ce que vous allez voir », eh ben, les gens n'approchent pas. Par contre, quand on dit « s'il vous plaît, il n'y a rien à voir, circuler », tout le monde s'arrête. « Ah bon, il n'y a rien à voir, ben, ça nous intéresse ». Et voilà, c'était le début mythique de la Deux Chevaux Théâtre. Et peu à peu, les gens nous entouraient, mais au début, le théâtre de rue n'existait pas. On commençait, il n'y avait personne dans la rue. Hein. On commençait, on parlait dans le vide. Et puis après, il y avait 2, 3, 10 personnes, 20, voilà, jusqu'à 400. Et 20 ans après, on le jouait encore. Mais j'avais grossi, je tenais plus dans mon costume de pompier libidineux, hein, parce que le pompier... Voilà, les femmes l'enflammaient, il enflammait les femmes, etc.
Tu avais un téléphone, oui, un vieux téléphone, oui, oui, bien avant le portable, voilà, qui te servait à appeler.
Et vous, moins courage, ça m'amusait beaucoup. Mais enfin, j'ai tellement d'anecdotes à raconter sur la Deux Chevaux Théâtre. J'en raconte une comme ça parce que ça me vient, c'est que j'avais un vrai habit de pompier. Hein, et un jour, je marchais en tant que pompier, j'allais rejoindre le lieu où on jouait. Et d'un seul coup, il y a un incendie qui se déclare. Monsieur le pompier, venez vite, il y a un incendie! Et j'étais totalement ridiculisé, quoi. Oh, je sais plus où me mettre, j'ai enlevé mon casque, je dis, mais non, je suis pas pompier. C'est dangereux par moment. Hein.
Alors, ce spectacle, sa particularité, quand même, c'était que l'attente des spectateurs était plus longue que le spectacle en lui-même. Oui. Le spectacle durait 8 minutes. Oui. Et c'était l'Odyssée des mulots du lac.
Voilà, c'est Hervé de Lafont qui avait écrit un petit conte à l'intérieur, qu'on jouait avec du Hans-Urs, on faisait des blagues privées. Théâtre laboratoire, on avait des pipettes, etc. Il y avait quelqu'un qui nous avait appris un petit exercice de chimie, que quand tu mettais du poivre dans de l'eau et que tu mettais une goutte de détergent, le poivre s'en allait d'un coup. Voilà. Et donc c'était basé là-dessus et c'était un joli petit conte avec des grands passages de Proust recopiés. Enfin, Proust ne nous en veut pas. Très joli petit conte de 8 minutes avec une morale. Ne dites jamais c'est naturel afin que rien ne passe pour immuable, qui est une morale bien entendu de Brecht.
Donc il y avait tous les principes, tout le rituel du théâtre bourgeois qui était complètement...
Oui, c'était une souffrance pour nous de dire qu'on faisait du théâtre populaire et qu'il n'y avait jamais personne. Alors le grand mot de l'ouvreuse, c'était « ça y est, notre théâtre est... » Dès que les deux personnes étaient rentrées, on disait « notre théâtre est plein, hein, notre théâtre est complet hein, ». Voilà. Il y avait même... L'entrée était payante, hein, c'était 2 francs. Et je me souviens que la l'ouvreuse, elle disait « maintenant, je vais vous montrer le principe de la subvention. Je vais distribuer 2 francs, hein, à ceux qui veulent rentrer, et vous allez me les rendre. C'est le principe de la subvention, vous voyez. Comme ça, le théâtre était subventionné. On avait du mal à faire rentrer les gens dans la Deux Chevaux. C'était une parabole, c'était pareil que faire rentrer les gens dans un théâtre. Souvent, c'est les gens de théâtre qui rentraient. Les gens comme ça qui allaient jamais au théâtre, ils n'osaient pas rentrer. Ils disaient, oh là là, je me méfie. Voilà. Et donc, on faisait 8 spectateurs à l'heure, hein. Et dehors, il y avait plein d'histoires. Entre le pompier, le public, c'était interactif. On avait inventé le théâtre de rue sans faire exprès, hein, parce que voilà, Hervé surnommait les gens, elle les charriait. Et de temps en temps, je disais, mademoiselle René, je ne trompe pas, où est le garde? Mais oui, où le garde est parti? Le garde, souvent, il montait dans les maisons, sur les toits, il se juchait sur une statue, il voulait toujours être plus haut que tout le monde. Enfin, c'était... très, très, très drôle. ça l'amuse encore. On a toujours rigolé avec ce spectacle. On a joué... Quand on joue en Corée, il y a carrément 4000 personnes qui entourent la Deux Chevaux, donc personne ne voit rien. Et il y a les gens qui demandent... donc on joue très vite, et les gens demandent, il est quand le spectacle? On dit, il est terminé. Les gens... voilà, il y a des endroits, on joue pour 1000 personnes, il y a des endroits, on joue sous la neige, il y a plein d'anecdotes à raconter, hein. Il y a plein d'histoires.
Mais le théâtre de rue, c'est pas le théâtre dans la rue.
Oui, ben finalement, je peux pas jouer la Deux Chevaux Théâtre sur la scène de l'Odéon. C'est impossible. Le théâtre de rue, c'est vraiment que dans la rue. Hein. Toute pièce que tu peux remettre à l'intérieur, c'est pas du vrai théâtre de rue. le théâtre de rue, il faut vraiment qu'on voit le public, il est interactif, on joue directement avec le public, on le voit, s'il rit pas trop, on change notre statut de jeu, on voit toutes ses réactions au fur et à mesure, on charrie les gens, etc. C'est vraiment très, très, très spécial, hein. C'est vraiment du théâtre de foire. Et je cherchais d'où on avait sorti cette douche au théâtre, mais je sais même pas d'où on l'avait sorti. C'est arrivé comme ça, et j'avais aucun... Dans tous les livres de théâtre, personne ne jouait dans une voiture. Mais c'était tout de même un entresort forain, ce qu'on appelle un entresort forain, c'est-à-dire le spectacle est caché, et dehors, il y a une parade. Voilà. Ça relevait de cet esprit-là.
Mais au fur et à mesure, vous avez quand même dégagé des règles par rapport au théâtre de rue, c'est-à-dire ne pas s'adresser à des gens ivres, à des ivrognes, il y a eu des règles qui se sont...
Bien sûr, il ne faut pas s'adresser aux enfants, pas aux ivrognes, il faut faire attention, hein. il faut tout maîtriser, on a appris à maîtriser, on savait très bien maîtriser, on savait très bien quelle personne avec qui jouer, les gens qui te répondent dans le public, avec quelle personne, il ne faut pas jouer, il y a des gens qui jouent faux, etc. On avait appris aussi tout d'un type qui jouait sur le parvis de Beaubourg, c'est John Gaze, on l'a beaucoup regardé. On avait beaucoup regardé, moi j'ai beaucoup regardé La Foire du Trône, le catcheur, Johnson je crois qu'il s'appelait, avec des barons, etc. On avait appris sur le tas le métier de bonimenteur, quoi, le métier de bonimenteur.
Des barons, c'est des comparses?
Les barons, oui, c'est des comparses, mais dans la Deux Chevaux, il n'y en avait pas, c'est dans d'autres spectacles. Mais disons qu'on apprenait beaucoup, on savait jusqu'où on pouvait aller avec quelqu'un, on savait très bien comment jouer avec les gens, voilà. Hervé était spécialiste, psychologue. Savoir avec qui elle pouvait jouer, savoir quelle personne elle pouvait déshabiller. Parce qu'après, on s'est amusé, on a fait des choses absolument ignobles. On a fait, quand Vigipirate est arrivé, on adorait fouiller les ministres. Nous, on enlevait le pantalon des ministres pour voir s'ils étaient armés. Avec un bataillon de femmes. Enfin, vous avez des choses absolument sordides, hein, disons. Mais, Décoiffante,
mais c'était aussi, je ne sais pas si on pourrait en profiter pour définir ce qui est pour toi le rire politique.
On a appris ça chez Charlot, que quand tu fais tomber un pot de fleurs sur la tête d'un pauvre, ça ne fait pas rire du tout. Hein. Par contre, si c'est un gros Richard, ça fait rire, bien sûr. Non, mais il y a des gens, on a appris ça, les gens qu'on peut charrier et les gens qu'on ne peut pas charrier. Par moment, on peut se moquer d'un handicapé très fort, parce que l'handicapé souhaite être traité comme tout le monde. Alors on a des grands scénarios, qui sont très 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 décapants, hein. Notamment quand on a fait jouer Anne de Jon dans Othello d'Esdémone. Enfin, ça c'était pas du théâtre de rue, c'était un atelier. Mais elle était sur sa chaise et on renversait la chaise et elle était comme un poisson qui bougeait, pouvait plus bouger. Et elle a été ravie, mais les gens étaient choqués comme tout, parce qu'il ne faut pas exagérer.
En fait, tu aimes bien t'approcher de l'illicite.
Oui, bien sûr, toujours, moi, toujours l'illicite. Hein. Quand je ne suis pas sur le bord de ce qu'il ne faut pas faire, ça ne m'intéresse pas. Et souvent, ce qui ne m'intéresse pas dans le théâtre traditionnel, c'est que tout est joué d'avance et rien ne peut t'arriver. Dans le théâtre de rue, tout de même, quand tu commences une séance, tu as tout de même toujours peur, parce qu'il peut t'arriver des trucs. Hein. Il est arrivé des crachats, enfin, dans nos spectacles, les guillotines. On avait un spectacle... Parce qu'après, on a répertorié tout ce qui passait dans la rue, tu vois, les pendaisons, les exécutions publiques. On a fait un spectacle sur la guillotine. Hein, la guillotine qui était un progrès par rapport à la mort avant, à la hache. Il fallait s'y prendre à plusieurs reprises, etc. La guillotine, c'était sans douleur. Mais notre guillotine, elle était surdimensionnée. On mettait un cochon sous les guillotines, nous. Quand on jouait les guillotines, il y avait des gens qui croyaient qu'on était pour la peine de mort. Et donc, ils montaient sur l'échafaud et ils nous crachaient au visage. Il y avait des moments très dangereux où ils essayaient de manipuler eux-mêmes la guillotine. Il y a eu souvent des moments très dangereux. Hein.
Bah, d'autant plus que vous l'avez joué dans plusieurs pays, donc j'imagine plusieurs peuples.
Oui, et puis...
Avec des réactions différentes.
Normalement, la guillotine, au moment où on met le cochon, il y a tout le public qui hurle, qui dit non. Et sauf qu'une fois, on va jouer en Allemagne. C'est moi qui avais la gâchette, tu vois, et qui devait compter 5, 4, 3, 2, 1, mort du cochon. Et en Allemagne, pour les Allemands, du moment que c'est sur une place publique, c'est autorisé, donc ils vont tuer le cochon. C'est normal. Je fais 5, 4, 3, 2, 1 et demi, 1 quart, et on entend juste quelqu'un dans le public qui dit « Oh, Jaco, tu vas pas faire ça !» C'était un artiste de cirque, Pierre Aubidon, pour ceux qui connaissent. Et donc, immédiatement, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Ben, écoutez, on va faire un vote du public, etc. C'était très complexe. Qu'on n'arrive pas jusqu'à la mort de Cochon, parce que ça aurait été horrible. Le Cochon, il hurlait, tu sais, quand on le mettait sous la guillotine. Après, on a dû inventer des parades, des faux flics qui arrivaient pour nous interdire, etc. On avait toujours peur, quand on jouait la guillotine, on avait peur qu'il y ait un accident.
D'autant plus que tu aimes les animaux.
Ben oui, bien sûr.
Tu aimes les animaux, tu es toujours accompagné d'un chien.
Oui, ça, c'est
depuis ton enfance ou ton adolescence.
C'est familial, ça. Mon père avait des chiens, des Doberman. Tu sais, quand t'es dans une famille, il y a des chiens, bah t'as des chiens, voilà. Tout le monde a des chiens chez moi. Voilà.
Oui, mais tout le monde ne fait pas des spectacles pour chiens.
Ben voilà ce qui est
alors,
arrivé.
Alors, ça peut paraître saugrenu.
T'as raison, un jour. Mais quand on répétait n'importe quel spectacle, le chien regardait. Et quand il y avait des bagarres ou qu'il y avait des cris, le chien intervenait. En aboyant ou en voulant interférer dans les scènes. Voilà, je disais, mais putain, les chiens, ils suivent les spectacles, c'est pas possible. Voilà, et un jour, en discutant, je disais, un jour, on devrait faire vraiment un théâtre pour chiens. Puis moi, je voulais pas le faire, et puis on n'avait plus rien à faire, là, on était en panne, et il y avait notre sorte d'agent, là, qui s'appelait Ginsburger, qui dit, il faut le faire, le théâtre pour chiens, c'est une bonne idée, finalement. Je dis, théâtre pour chiens, quel... Et donc, on se met à faire le théâtre pour chiens, un théâtre à base d'odeurs, avec de la viande. Les acteurs sont maquillés avec des saucisses, des tranches de bacon qui se mettent sur les joues. Moi, je suis le pire parce que je suis habillé une sorte de maître chien et je dois me mettre de la rillette entre les fesses derrière. Hein, on n'a qu'à le dire, des rillettes dans le cul, ce qui fait que quand je marche dans la rue, tous les chiens viennent me sentir. Pour essayer de me prendre la rillette. Ça faisait des scènes absolument exaltantes. Alors, on décide de répéter le théâtre pour chien. Il y a mon chien qui regarde, on regarde ce qu'il aime. On fait Dionysos, os, os, Dionysos, os, os, os. On a des gros os. Il y a des animaux, puisqu'on va jouer, qu'est-ce qu'on va jouer? Oh là là, comment ça s'appelle, ce qu'on va jouer? L'aigle.
Prométhée enchaîné.
Prométhée enchaîné, voilà. L'aigle qui mange le foie, alors on a le foie, on a un coq, on a la poule, on a des lapins, on pose un lapin, on fait des blagues énormes, et les chiens, alors on invite les chiens, alors ça devient absolument sordide, parce qu'on envoie des invitations aux chiens, on a des invitations en forme d'os, donc dans les théâtres où on va, on leur demande un fichier de chien, et après, pour être sûr d'avoir des chiens, je téléphone aux gens, voilà, vous avez votre chien Rex, il est invité. Ah oui, on a vu ça, mais c'est quoi cette connerie? Non, Rex est invité à un spectacle. Vous avez l'invitation en forme d'os. Il faut qu'il vienne. Voilà. Alors, Rex arrivait. On l'installait dans une loge, dans un panier. Des corbeilles. Au théâtre, on appelle ça des corbeilles. On avait fait le rite de la corbeille. Et peu à peu, on devenait légèrement fou parce qu'on devait attirer les chiens, nous. Et pour attirer les chiens, il fallait avoir un jeu très physique. Voilà, j'ai fait, etc., avec de la bave et tout, hein. C'était, on retrouvait la cruauté d'Artaud, hein. Et en sortant, les comédiens disaient, t'as vu le cocker? Moi, je l'avais, il m'aimait, le cocker. Mais non, arrête, c'est le border collie, moi, qui m'adorait. Voilà. Et...
Le dalmatien était ému.
Oui, voilà. On parlait comme ça. Et peu à peu, on est tombé dans des affaires les plus folles. On était invités dans des foires aux chiens abandonnés. À la foire de Paris, là, au Palais des Expositions, on devait jouer pour les chiens bâtards. On était invités par la télé japonaise. C'était une émission, est-ce que le théâtre pour chiens existe en France? Vrai ou faux? C'est un jeu. Donc la télé japonaise, on avait filmé à Paris, on avait fait du théâtre pour chiens à Paris. Et le mec, il disait non, ça n'existe pas. Eh ben, faux. Voilà le théâtre pour chiens en France, voilà. Mais peu à peu, les comédiens avaient de l'eczéma. De l'eczéma à cause des rillettes et des mauvais saucissons et des mauvaises saucisses. Donc on a arrêté un jour parce que c'est... Mais c'était bien fait, ça, là. Le discours, on le disait au début. On disait qu'on s'adressait aux exclus de la culture, les vrais exclus. Le directeur de la culture de Jack Lang m'a un jour convoqué pour me dire, écoutez, Jacques Lifshitz, je dois vous raconter quelque chose. Vous savez, quand vous avez fait votre théâtre pour chiens, vous aviez raconté que Jack Lang avait fait une circulaire pour dire « le théâtre doit s'adresser aux déshérités, aux exclus de la culture ». Et vous avez fait ça pour les chiens en disant « nous, notre subvention du ministère, on va la rendre aux chiens ». Figurez-vous, j'écris signe que j'ai reçu des centaines de boîtes de canigous. Que les gens m'ont injurié en disant « mais c'est la décadence totale, le ministère de la Culture subventionne les chiens maintenant, mais c'est quoi exactement ?»
Parce que les chiens sont des exclus de la culture.
Et oui,
ils
sont interdits dans les bibliothèques, interdits dans les théâtres, interdits dans les cinémas. On a reçu des compliments de gens importants. Je crois que c'est André Engel, tu vois, qui était connu à l'époque, qui m'envoyait une carte postale comme ça. Bravo, c'est la chose la plus juste que j'ai jamais entendue dans le théâtre, ce théâtre pour chiens. Mais on était allé trop loin, là. De temps en temps, je me disais, on est allé trop loin, là, on a exagéré, là. Ça devient trop absurde, faire du théâtre pour chiens. Et en vrai, il est arrivé en Suisse, voilà qu'il y a des chiens qui arrivent avec des rubans dans les cheveux. Une petite dame dit, j'ai appris qu'il y avait l'anniversaire. Pour l'anniversaire de mon petit chien, mon chihuahua, je vais lui offrir théâtre. Voilà. Et donc, on devenait fou avec ça. Les gens, il y a des gens fous, des chiens. Il y a des gens fous, hein, qui amenaient leurs chiens pour l'anniversaire. Hein.
Et il les faisait beau, comme on oui, fait voilà, beau pour aller au théâtre.
Ils habillaient
les chiens. Et se montrer.
Ils habillaient le chien, voilà.
Ça a duré combien de temps ?
Oh, 2 ans. Et 2 ans à me mettre des rillettes, voilà. Très dur.
J'ai lu, Jacques Lifshin, aussi, que vous aviez fait du boulevard de rue, du boulevard dans la rue.
Oui, on cherchait tout ce qui se fait dans la rue, voilà. Et ça nous amusait qu'on disait le théâtre de boulevard. Alors nous, on a fait du vrai théâtre de boulevard. On mettait des meubles dans la rue et on jouait une sorte de cul sur la commode, un truc, une parodie du boulevard, voilà. Une parodie du boulevard avec la bonne, avec l'amant, etc. C'était amusant de mettre le canapé dans la rue. C'était une sorte de gag, voilà, qu'on a joué à Avignon et c'est là que le drame est arrivé, quoi. On était programmé in à Avignon, le théâtre de rue.
Ah bon?
Ouais. Et le drame qui est pas un drame, c'est qu'il y a un journaliste qui passe. Et qui voit, qui dit, c'est quoi ce truc-là? Le boulevard de la rue, la douche au théâtre, la femme chapiteau. On jouait tous nos spectacles de rue. Et voilà qu'il nous fait une page totale dans Libération. Et à l'époque, Libération, c'était la Bible des gens de théâtre. Et du jour au lendemain, on est très connus. Et on va tourner, c'est comme ça qu'on va tourner la douche au théâtre pendant 20 ans. Parce que tout le monde nous classe, ah, c'est ça le théâtre de rue, voilà. J'appelle ça un drame, c'est pas un drame, c'est amusant. Et le journaliste, il s'appelle Thibaudat, et je le vois encore, il va encore au théâtre. Jacques Lang lit ça, tout le monde lit Libération à l'époque. Et donc c'est très important pour nous, ce théâtre de rue qu'on a fait à Avignon. Même si nous on trouvait ça, même le boulevard de la rue, c'était pas très bon, mais ça fait rien, c'était amusant tout de même. Parce que, à vrai dire, on fait ce théâtre de rue, mais on a un peu honte tout de même de ne pas faire du vrai théâtre dans le théâtre. Un jour, on voit Ariane Mnouchkine qui nous regarde. Oh, Hervé dit, putain, Ariane, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Jouer la douche au théâtre, mais qu'est-ce qu'elle peut penser? Ariane ne dit rien, toi. Un autre jour, c'est Bartabas qui nous regarde, il y a plein de gens qui nous regardent. Mais nous, on a honte, on voudrait faire du vrai théâtre, dans les grands théâtres. Puis on fait nos bêtises de rue, nos plaisanteries de rue, voilà. Donc j'ai toujours porté un peu une culpabilité de faire ce théâtre pas sérieux, tout en étant très sérieux. Parce qu'il y avait des mots d'ordre qui circulaient, on joue dehors parce qu'à l'intérieur du théâtre, il fait trop froid. Hein. Voilà, c'est. J'ai toujours dans la tête que le théâtre de rue, c'est du sous-théâtre. Et pourtant aujourd'hui, je dis, mais non, le théâtre de rue, c'est pas du sous-théâtre, Jacques, c'est le vrai théâtre. Le théâtre, il est né dans la rue, il est né dans une fête dionysiaque, il est né sous le ciel. Le théâtre grec, il est sous le ciel, même Shakespeare. Le théâtre du Globe, il a du ciel. Et le théâtre, ça doit être en plein air, ça ne doit pas être enfermé complètement, voilà. Donc, je me convainc que je fais le vrai théâtre. Mes amis, tu sais, les amis d'école, mes amis, mes vieux amis, ils sont tous plutôt dans la littérature et la philosophie que dans le théâtre. Moi, je ne suis pas accepté par la communauté théâtrale. De gens bien. Le théâtre de rue, oui, ils m'acceptent, mais les autres, attention, c'est froid.
Ah ouais? Des gens comme Ariane Mouchkine?
Non, non, au contraire, avec Ariane Mouchkine, nous sommes en totale intelligence les deux. Le théâtre chez elle, c'est toujours une fête. Accompagné d'avant-spectacle, d'après-spectacle, enfin, tout, pour moi, tout y est toujours chez elle. Changement du lieu, étonnement par le lieu, etc. Troupe de comédiens fraternels, alors qu'à l'intérieur, ils s'engueulent complètement, j'imagine, comme dans toutes les compagnies, mais voilà.
La devise que vous allez très vite avoir avec le théâtre de l'Unité, c'est que le théâtre de l'Unité, c'est toujours autre chose.
Ah oui.
Et en effet, vous changez toujours le paramètre.
Oui, parce qu'on se dit, si on veut faire du théâtre comme tout le monde, comme Jean-Pierre Vincent, comme tous ceux à la mode, on sera jamais les meilleurs. Par contre, si on fait quelque chose de tout à fait nouveau, on sera les seuls à le faire. Mais c'est Jean-Luc Godard qui raconte ça, d'ailleurs. Il dit, moi, je suis le seul qui sait cultiver l'échec au cinéma. Quand vous additionnez le nombre... chez moi, il faut prendre le nombre d'entrées, le nombre de sorties pendant mes films. Ben, je suis le meilleur, là-dedans. Hein, voilà, et nous, on servait beaucoup de cette phrase de Jean-Luc Godard. Il faut être le meilleur quelque part, même en étant très mauvais. Mais le meilleur en mauvais. Le meilleur en échec, on était le meilleur. Donc très vite, la théorie est venue doucement. C'est qu'il fallait faire du théâtre avec un gros changement de paramètres. Donc le théâtre, c'est à l'intérieur de chevaux, changement de paramètres. Le théâtre, ça doit durer normalement 1h20. Nous, on va faire des spectacles qui vont durer 12 heures. Le théâtre, c'est pour du public d'hommes. Mais non, nous, on va le faire pour les chiens. Le théâtre Tchekhov, ça se joue à l'intérieur, c'est intime. Nous, on va le faire dans les prés, etc. À chaque fois, on change un nouveau paramètre.
On peut parler aussi de Macbeth qui se passe en forêt.
Voilà, Macbeth.
Qui est une mise en forêt.
Voilà, on change le public, la durée, la disposition, la manière de parler. Même on fait un spectacle où le paramètre est le suivant, il faut que le public joue les morts. On fait l'avion, il faut qu'il y ait 80 morts. Et donc on va manipuler le public de telle sorte que d'un seul coup, tous les gens, on dit c'est l'accident d'avion, voilà, etc. Et tous les gens sont morts. Là, c'était 80 figurants gratuits, on avait. Voilà. Enfin, à chaque fois, on s'amuse avec le changement de paramètres. Voilà. Jusqu'au Rimbaud, qu'on va jouer sur les chemins. Alors, le changement de paramètres, là, c'est quand on veut jouer là où vivait Rimbaud, là où existait Rimbaud. Là, c'est le paramètre où on change de lieu, où le lieu doit être symbolique. Voilà, chaque fois. Maintenant, c'est fini. Je ne changerai plus de paramètres.
Merci, Jacques Lifchine. Demain, on se retrouve. Et demain, on sera dans la rue et dans la ville.
Ah, très bien.
À demain.
C'était À Voix Nue, cette semaine, avec Jacques Lifchine. Réalisation Anne Fleury. Prise de son Johanna Gabric, chargée de programme Daphné Abgral. Une série de Sylvie Gasteau, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.